La première épître de Pierre, à la fin, chapitre 5, je vais vous lire les versets 5 à 11. Alors, en sachant que je vais juste me contenter d'une feuille où j'ai remis quelques idées, mais j'avais trop de papier. En fait, on a toutes sortes de pensées qui travaillent et qu'on voudrait apporter. Mais au fur et à mesure de ma méditation et au fur et à mesure où j'écrivais, j'étais ramené tout simplement au texte lui-même, afin, avec vous, de le recevoir. C'est versets 5 à 11. En pensant au contexte dans lequel nous vivons actuellement de la pandémie, et en particulier au contexte où les églises et les enfants de Dieu sont placés. Bon, ça commence, on peut dire bizarrement par rapport à ce contexte. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Je passe sur la première phrase, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, par rapport à la situation actuelle. Et j'arrive tout de suite à cette recommandation fondamentale. Soyez humbles. L'humilité dans ce contexte. J'essaye de retrouver où est-ce que j'ai marqué ça là-dessus. Voilà, oui, c'était déjà plus loin. L'attitude que Dieu attend de nous. Humilité, abaissement volontaire, ce n'est pas le moment d'avoir un esprit supérieur. Lorsqu'on a été confronté et que l'on est encore à tous les discours rapides et puis les décisions et les contre-décisions et les raisons pour lesquelles il y a ce virus qui s'est répandu dans le monde et puis comment il faut agir et réagir. Soyons humbles. Adoptons une attitude d'humilité par rapport à ce que nous avons pu penser, vivre et que nous serons encore appelés à vivre dans les jours, les semaines, les mois qui viennent et peut-être les années. Humilité, abaissement volontaire. Abaissement volontaire parce que sinon Dieu ne peut pas nous élever. Si nous sommes élevés, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas nous qui nous élevons, c'est Dieu qui nous élève. Alors, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si nous sommes dans l'humilité, dans une période comme celle-ci, si nous acceptons un abaissement volontaire, le Seigneur est fidèle pour nous élever au temps convenable. Et puisque cette situation engendre toutes sortes de soucis, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alors, pour le coup, vraiment, cette parole s'applique. Les chrétiens du monde entier sont touchés de la même façon. Bien sûr, les gens du monde entier sont touchés, mais les chrétiens du monde entier, moi, je m'intéresse à ce qui se passe pour les enfants de Dieu, pour les églises. Et dans le monde entier, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères. Ces souffrances, je les ressens de trois façons, à trois niveaux, disons. Premièrement, des chrétiens, des familles et des assemblées sont en deuil à cause de ce virus. Ils sont dans la souffrance parce qu'ils ont été touchés, éprouvés durement. Et j'étais quand même étonné du nombre de chrétiens dont nous avons entendu qui ont été gravement touchés et qui sont morts à cause de ce virus. Donc il y a beaucoup de souffrances parmi les enfants de Dieu à cause de ce mal. Et pour ceux qui justement possèdent les promesses, c'est une souffrance d'autant plus grande. Et quand en plus, ils sont pour une part considérés, en tout cas dans notre pays, comme ceux qui ont été les propagateurs du mal, alors vous voyez la souffrance qu'ils peuvent ressentir. Et comment les églises sont obligées de se garder afin de ne pas donner d'armes, en quelque sorte, aux calomniateurs. Les églises sont très éprouvées. De plus, spirituellement, il y a quand même une souffrance qui est là. C'est que personne, aucune église, je n'ai entendu nulle part dans le monde que des chrétiens aient été avertis, qu'il y ait eu une quelconque prophétie, un quelconque avertissement au sujet de ce qui allait venir sur le monde. Le diable, alors qu'il est écrit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son projet à ses serviteurs, les prophètes, mais son projet, c'est l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Et cette œuvre-là, elle a été annoncée. Et cette œuvre-là, elle est encore annoncée dans ses suites. Et cette œuvre-là, elle est connue par les prophètes et les enfants de Dieu. Mais on pouvait s'attendre à ce que dans une circonstance particulière, le Seigneur prévienne. Il avait bien prévenu pour la famine qui allait toucher les frères de Judée au début, dans les Actes des Apôtres. Et là, rien, personne, tout le monde a été surpris. Les pentecôtistes, comme les baptistes, comme les luthériens, comme tous. Et l'assemblée dans laquelle ce mal s'est développée. C'est une assemblée où ils étaient réunis pour du jeûne et à prière. C'est une souffrance. C'est une occasion pour l'adversaire de se précipiter et d'atteindre, de déstabiliser, de remettre en cause et d'amener la critique, la division, le jugement entre même les églises, les enfants de Dieu. C'est une situation très grave. Et puis, il y a eu ce confinement. Ça, c'est pour les églises. Ça a été quelque chose de totalement contre leur nature même. Parce que la nature de l'Église, les saints, c'est de se mettre à part pour être ensemble devant le Seigneur, jouir du royaume de Dieu, de sa parole, et tout à coup, ils en étaient privés, ils en étaient empêchés. Il a fallu s'adapter, trouver des solutions, travailler à rester Église malgré l'empêchement. C'était pas facile. Combien de délibérations au sujet de la scène? Était-il possible de la faire à distance? De la faire chez soi chacun ou de la faire virtuellement avec quelqu'un qui l'a mené, etc. Combien de difficultés pour les églises de se rassembler et de mettre en œuvre ce qu'elles sont, être corps de Christ dans cette période. Certains n'ont toujours pas repris la scène. Nous avons repris en ayant dû nous adapter par rapport à la pensée qui nous guide jusqu'à présent de la manière de prendre la scène. Et puis, il y a aussi cette troisième chose, c'est que, bon, il y a eu la première phase, et puis il y a eu les retrouvailles, ou non-retrouvailles pour certains qui ne sont pas encore revenus. Mais pour ceux qui sont revenus, quelles mesures adopter? Quels conseils suivre? Pendant un certain temps, très sincèrement, j'étais très très réticent à ce qu'on garde le masque dans l'église. J'ai dû me plier à la réalité. Est-ce que c'était une faute de penser qu'il fallait pas de masque? A priori, personnellement, je ne pense pas que c'était une faute, mais peut-être pour l'un ou l'autre d'entre vous, c'était déjà une faute de ne pas prendre de précautions dès le départ. Moi, j'ai fini par me plier progressivement. Parce que vous savez, je suis, comme vous le savez, vous et vous l'êtes vous-même, je suis français. Et donc, j'ai une nature de citoyen français qui ne fait pas forcément les choses tout de suite comme les autorités le voudraient. Peut-être que c'est un système de, je sais pas, psychologique qui est dans la nature du français. Mais ma nature de français, elle doit se soumettre à ma nature spirituelle. Donc, je fais en sorte maintenant de complaire à chacun, ne pas donner d'inquiétude à mes frères et sœurs. C'est l'évangile qu'on est en train de découvrir la mise en pratique, la mise en œuvre. Après, il y a ce qui nous guide dans nos réaction. Pour certains chrétiens, ce virus est un fait naturel auquel il faut faire face, c'est un impondérable. Il faut faire face de la même façon que l'on fait face dans le monde, dans la société, parce qu'il ne faut pas se poser de questions, c'est tout, il faut faire attention à ce virus, point. Pour d'autres chrétiens, c'est plus compliqué. Parce que ce virus, non, ce n'est pas un fait naturel. Non, c'est l'Antéchrist qui est en train de préparer les autorités à manipuler les populations, à prendre le contrôle sur eux. Alors vous voyez, un chrétien qui a cette formation-là, cette pensée-là, quelle va être sa façon de réagir? Comment elle va se positionner? Tout ce qui va lui être proposé va être quelque chose qui lui est imposé, mais dont il aura l'intention de, a priori, auquel il aura l'intention de résister. Tandis que pour le chrétien, pour lequel il n'y a pas cette notion de prise en main de la population et où les autorités font ce qu'elles peuvent pour faire face, eh bien ce chrétien-là n'aura aucun souci, aucun problème à adopter toutes les mesures qui sont recommandées et même à les augmenter lui-même parce qu'il exerce sa propre sagesse par rapport à une difficulté. Donc là, ça pose un vrai problème. Et là, c'est peut-être le moment de se repencher ensemble sur la parole de Dieu, de faire des études bibliques pour, au fait, qu'est-ce qui nous guide, quelle est notre conception, quelle est notre approche des temps actuels, de la manière dont les autorités de ce monde agissent envers l'Église. On doit rester totalement libre et confiant. La parole de Dieu doit être travaillée par les enfants de Dieu pour qu'ils s'accordent sur ce qu'ils vivent ensemble. Vous savez que le diable, ce mot diable, hein, c'est calomniateur, c'est le diviseur. Alors il peut vraiment déchaîner sa rage dans ce contexte. Dans la société, c'est clair qu'il a divisé tout le monde. Mais dans l'Église aussi, il peut provoquer le découragement, la zizanie, sur un fond comme ça d'inquiétude et de choses qu'on ne perçoit pas bien et qui semblent ingérables. Demandons la sagesse, la force du Seigneur. Parce que ce texte nous dit que nous avons Dieu lui-même avec nous. Et là, j'aimerais insister, parce qu'à deux reprises, il est question de Dieu lui-même. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et ensuite, le Dieu de toute grâce vous perfectionnera lui-même. Ce qui doit nous guider, nous garder dans nos pensées, nous fortifier, nous unir, nous rassurer, c'est que nous avons Dieu lui-même avec nous. Afin de résister au diable, parce qu'il est dit de résister au diable. Mais comment résister au diable en sachant que Dieu est avec nous? C'est ce qui nous est rappelé ici. Nous avons Dieu lui-même qui s'occupe de nous. Et notre résistance se fonde sur ce que Dieu lui-même fait pour nous et en nous. Nous ne résistons pas nous-mêmes, nous ne nous efforçons pas à trouver la capacité. Nous nous tournons vers Dieu pour que sa puissance, à lui la puissance au siècle des siècles, pour que sa puissance soit à l'œuvre pour nous garder, nous protéger, nous garder dans la même pensée, nous délivrer de l'épreuve, nous délivrer du découragement, nous garder de l'erreur, toutes ces choses. Le Seigneur travaille à nous perfectionner, à nous affermir, à nous fortifier, à nous rendre inébranlables. Et qui sait, et là je reviens aux jeunes dont il est question, peut-être plus particulièrement, dont il est question au début, qui sait si cette épreuve, ce genre de situation n'était pas absolument nécessaire pour que la génération qui a vécu dans la liberté, dans la facilité, dans le confort, dans l'acquisition de tout et la maîtrise de toutes choses presque, si il n'était pas nécessaire que cette génération soit en quelque sorte reprise en main spirituellement pour comprendre qu'elle doit s'habituer à ce que les temps qu'elle va vivre sont des temps difficiles. Sont des temps qui vont aller en intensité plus grande contre la liberté personnelle, contre la liberté de conscience, contre la vie heureuse, tout simplement. Moi, je souhaite à tous les jeunes d'être pleins de force, de vigueur, d'enthousiasme, de pouvoir faire dans une pleine découverte de la vie. Mais si ça doit bien sûr aboutir à la ruine spirituelle, alors ça c'est un grand dommage pour eux, mais si ce n'était plus ça maintenant, s'il fallait s'habituer qu'entrant dans les derniers temps, eh bien ces choses qui sont naturelles, qui sont bonnes, ne leur seront plus données. Et qu'il faudra qu'ils apprennent à connaître profondément, sérieusement, personnellement le Seigneur qui est leur sauveur pour pouvoir traverser les temps difficiles. Que nous ne sommes plus dans le temps où nous faisons ce que nous voulons. Non, nous ne faisons plus ce que nous voulons, ce n'est plus possible. Là, concernant la circonstance précise, mais ensuite, peut-être qu'ils auront appris, peut-être qu'ils auront intégré cette notion que non, nous ne sommes pas sur un chemin facile où tout va se dérouler et nous être donné tout seul. Il faudra souffrir, faire attention, et surtout apprendre à connaître le Seigneur. Soyez sobre, veillez. Veillez sur quoi? Veillez sur les projets des méchants, veillez sur tous ceux qui sont à vouloir nous dominer ou nous rendre esclaves. Je ne pense pas que ce soit cela que le Seigneur nous dise ici. Veillez sur vous-même, veillez sur vos âmes, veillez sur votre relation avec le Seigneur. Pour le reste, le Seigneur s'en charge. Je ne voudrais pas que nous soyons de ceux qui sont en permanence sur les réseaux sociaux ou sur l'Internet afin de découvrir la dernière trahison, le dernier complot, la dernière façon de vouloir nous manipuler. Le Seigneur est notre gardien, le Seigneur est notre sauveur, Et peu importe les projets des méchants, s'il est là et qu'il nous garde, nous serons protégés, mais nous devrons faire face avec foi, avec résister avec une foi ferme qui implique des souffrances. Donc, ayons une assurance dans la foi. Le projet de Dieu en Jésus-Christ nous est rappelé ici. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Vous avez été appelé en Jésus-Christ à la gloire éternelle par la grâce que Dieu vous a faite. C'est cela, notre grande vision, notre force, ce qui est entré dans nos cœurs. C'est que nous avons été appelés par l'œuvre de Jésus-Christ à la gloire éternelle. Alors d'accord, bon, il y aura un temps de souffrance après que vous aurez souffert. Mais quand même, un peu de temps. Et il est dit, bien sûr, dans les temps extrêmes, que voilà, les temps seraient abrégés afin que les élus soient sauvés, parce que si les temps n'étaient pas abrégés dans la dernière partie, là où ce sera les ténèbres complets, la détresse totale, même les élus pourraient perdre la foi. Donc le Seigneur abrégera les temps. Mais ici, il est dit, après que vous aurez souffert un peu de temps. Il y a quand même des périodes dans la vie où nous souffrons un peu de temps, mais le Seigneur est là pour, justement, nous perfectionner après ce temps. Quand nous passons ce temps dans l'humiliation, dans l'abaissement, que nous attendons la délivrance du Seigneur, alors au moment voulu, il nous fortifie, il nous affermit, il nous perfectionne, il nous rend inébranlables. De sorte que, à la fin, justement, lorsque viendra la grande épreuve, alors nous serons aussi prêts. À travers les premières, les petites, plus ou moins grandes d'ailleurs, épreuves que nous aurons supportées. Le Seigneur, le Dieu de toute grâce, nous préservera. Je veux ici dire, parce que j'avais à cœur de le dire, que les souffrances, donc au sujet des souffrances, le médecin chrétien, le médecin chinois, Li Wang Li, oula, c'est difficile à prononcer et à se rappeler exactement, Li Wan Liang, je crois, voilà, qui a découvert le problème du corona et puis qui en est mort parce qu'il a continué son engagement, était chrétien, en fait. Et il a, de ce que j'ai lu, même écrit un poème pour son fils en disant, en citant les paroles de Paul, « J'ai combattu le bon combat ». L'Église a un témoignage de quelqu'un qui a été dans le concret, donner sa vie pour sauver d'autres, parce qu'il avait la conviction qu'il faisait l'œuvre de Dieu. Il y a une autre chose que je voulais dire, qui nous... Je ne sais pas si vous avez pensé à cela. Pendant le confinement, les mariages ont été interdits. Mais est-ce que vous vous êtes mis à la place d'un jeune couple chrétien, fiancé, qui attend le mariage pour consommer l'union, qui est dans l'espérance et qui est empêché parce qu'il veut vivre dans la sainteté de Dieu? Certainement qu'il y a eu de ces cas où la volonté de plaire à Dieu pendant un certain temps n'a pas été récompensée. Parce qu'il y a eu au moment où c'était le mariage, interdit. Je me suis, à un moment donné, quand il y a eu ces mesures, il y avait quelques exceptions d'ailleurs qui étaient données. Je me suis dit quand même, c'est une injustice. Il a fallu que des enfants de Dieu supportent cette injustice. Je voulais le relever. Parce que c'est tellement maintenant facile de vivre comme bon nous semble, même parmi les chrétiens. Mais si quelqu'un veut être vraiment dans la pensée de Dieu, dans l'obéissance, il est placé parfois devant des situations difficiles. Alors, au contraire d'abandonner justement ce chemin de sainteté, au contraire, prenons ce chemin de sainteté. Et je dis, moi, personnellement d'ailleurs, que dans l'Église, nous devrions maintenant favoriser la bénédiction des fiançailles plutôt que la bénédiction du mariage, puisque le mariage apparemment ne signifie plus rien. Si nous avancions sur ce chemin, je pense que le Seigneur, et je crois qu'il le faut, que le Seigneur bénirait, bénir les fiancés qui s'engagent dans l'espérance, dans l'attente, dans la retenue. C'est ce que l'Église devrait encourager. Le chemin de sainteté, c'est celui-là que le Seigneur veut pour nous. Alors, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Seigneur, je te bénis parce que tu nous exhortes par ta parole. Tu nous instruis, tu nous conseilles, mais tu nous rassures, tu nous assures en toi. Tu nous donnes, Seigneur, ton projet, tu nous donnes ta présence. Je te bénis, Seigneur, de ce que tu prends soin toi-même, de chacune de mes frères et sœurs, ici dans cette assemblée. Je te bénis, Seigneur, parce que tu les perfectionneras toi-même, tu les affermiras, tu les fortifieras, tu les rendras inébranlables, Seigneur, parce que c'est toi qui le fais, parce qu'ils auront souffert dans la foi, dans l'humilité, dans l'abaissement, et tu seras là, fidèle, pour les élever au temps convenable. Seigneur, bénis-les maintenant, je te supplie, Seigneur, je te les présente, je te demande de bénir mes frères et mes sœurs ici assemblés ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Amen.